أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chers sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme je l'avais annoncé sur mes textos, nous allons parler aujourd'hui de l'euthanasie. Et c'est un sujet à controverse, puisque dans les médias, nous trouvons deux opinions différentes. Nous avons d'une part un certain groupe de personnes qui disent que si une personne est en train de souffrir, qu'elle elle doit éprouver des opérations, des traitements très lourds, etc., elle est libre de choisir quand mettre fin à sa vie. C'est une des opinions que l'on trouve. Et puis nous avons la deuxième opinion qui est que c'est Dieu qui nous a donné la vie et nous n'avons pas le droit de mettre un terme à cette vie. Nous devons l'accepter telle qu'elle nous a été donnée. Alors, c'est un sujet à controverse, mais en même temps, donc, on voit à travers le monde que certains pays ont rendu l'euthanasie légale, d'accord ? Il est complètement légitime de pratiquer l'euthanasie. C'est notamment le cas de la Belgique, d'accord ? De la Hollande, des Pays-Bas et du Luxembourg. Et de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons certains États des USA, comme Washington ou l'Oregon, qui ont également rendu légitime l'euthanasie. Alors la question qui se pose, c'est que dit l'islam, quelle est la position de l'islam face à l'euthanasie? Et comme d'habitude, nous allons faire aussi un tour d'horizon de toutes les autres religions et nous verrons ce que les autres religions nous disent concernant l'euthanasie. Donc voilà le plan que nous avons adopté. Dans une première partie, nous parlerons des problèmes contemporains et pourquoi est-ce que c'est important que lorsque nous parlons de fiqh, lorsque nous parlons de jurisprudence, nous nous intéressons pas simplement à tous les sujets classiques comme la prière, comme le jeûne, comme les ablutions, comme la pureté, comme le hajj, etc. Mais qu'il est très important qu'on traite également les problèmes contemporains, les sujets contemporains, comme l'avortement, comme l'euthanasie, etc. Et il est important que nous vivions au rythme de notre société, d'accord ? Alors la deuxième partie, c'est qu'est-ce que l'euthanasie et quels sont les différents types d'euthanasie que nous avons. Ensuite, dans une troisième partie, nous verrons quels sont les arguments en faveur de l'euthanasie. D'accord ? Et bien sûr, ensuite, tout de suite après, quels sont les arguments contre l'euthanasie. Nous parlerons aussi du suicide et ce que l'islam dit du suicide. Et enfin, nous parlerons du fait que souvent en fin de vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve, nous fait passer des tests, d'accord, et essaye de voir, de tester notre iman, notre foi, d'accord. Donc commençons tout de suite par la première question, c'est pourquoi est-ce que c'est important que lorsque nous traitons de fiqh, lorsque nous traitons de jurisprudence, nous incluons des sujets contemporains, d'accord. En fait, la religion est un triangle holistique, pour les trois côtés. Donc, nous avons la jurisprudence. La jurisprudence, c'est la relation de l'être humain avec lui-même, puisque le but de la jurisprudence, c'est de nous permettre d'atteindre la perfection. Donc, la jurisprudence, ce sont des lois qui nous montrent les limites que nous devons nous fixer. D'accord ? La théologie, c'est un des aspects de la religion. La théologie, c'est le rapport de la créature vers son créateur. D'accord ? Donc, ici, créature envers lui-même. Ici, créature envers le créateur. Et enfin, l'éthique. L'éthique, c'est la relation entre les êtres humains. Comment est-ce que je dois me comporter en société ? Comment est-ce que je dois agir ? Comment est-ce que je dois parler ? Comment est-ce que je dois vivre dans cette société avec les autres êtres humains ? Donc, ce sont les êtres humains entre eux. Et du coup, la jurisprudence a une place très importante. Et comme je vous l'avais dit, c'est durant l'époque de notre sixième imam, dont nous célébrons le shahadat aujourd'hui, que les sujets contemporains, surtout les discussions sur le fiqh, sont devenues d'actualité. On a commencé à parler de plus en plus de fiqh. Parce que comme nous savons, nous sommes appelés les Ja'faris.
Pourquoi nous sommes appelés les Ja'faris? Parce que durant l'époque de notre sixième imam, a vécu dans une époque où justement les califes étaient en conflit. Il y avait beaucoup de guerres, il y avait de grands conflits dans le gouvernement. Ce qui fait que les califes en place étaient très occupés à se quereller, à se faire la guerre, et on avait donc laissé tranquille Imam al-Islam. Et c'est donc notre sixième imam qui a eu plus de temps que les autres, hors de prison, hors des tortures, et il a eu plus de temps pour propager justement la religion. Et c'est pour cela que les principaux ouvrages de fiqh dont nous disposons aujourd'hui nous viennent de notre sixième imam al-Islam. D'ailleurs, lorsque vous cherchez un hadith, souvent vous allez tomber sur des hadiths du sixième imam. Ce n'est pas que notre sixième imam avait plus de connaissances ou avait plus de quelque chose de plus que les autres imams. Non, c'est parce que les autres imams étaient souvent emprisonnés, n'avaient pas la liberté de pouvoir propager la religion comme ils le souhaitaient. Donc, pendant l'époque de notre sixième imam, il y a eu ces discussions concernant le fiqh, et ces discussions englobaient les nouvelles donnes économiques, les nouvelles donnes de la médecine, des sciences, des découvertes scientifiques, d'accord ? Et notamment en médecine. Et ça, c'est très important, parce que si nous nous contentons de traiter simplement les sujets classiques, eh bien, chaque jour, il y a de nouvelles questions qui se posent, etc. D'ailleurs, nous-mêmes, nous savons très bien que nous avons le Tawziul Masaeb de Ayatollah Sistani que nous suivons, avec toutes les lois. Et puis, de l'autre côté, nous avons, par exemple, le Code des pratiques pour les musulmans en Occident. Parce que nous, quand nous vivons en Occident, nous n'avons pas les mêmes préoccupations que ceux qui vivent en Iran ou en Irak, ou bien dans un autre pays qui est musulman. Nous, nous sommes obligés de vivre dans la société dans laquelle nous sommes, et bien sûr, nous nous retrouvons en voyage d'affaires, où il y a des questions qui se posent, nous nous retrouvons avec l'obligation d'avoir à acheter, par exemple, des chaussures, et comment on fait par rapport au cuir, etc. Donc nous avons plein de questions qui se posent à nous, qui ne se posent pas dans un pays islamique, puisque tout le monde est musulman, donc ce sont des questions qui ne se posent pas. Alors, nous parlions de médecine tout à l'heure. Certaines personnes disent que la médecine n'a aucune place dans l'islam. Bien au contraire, c'est pendant l'époque de notre 9e imam que justement les premiers ouvrages et les ouvrages de médecine les plus importants ont vu le jour. D'accord ? Donc, vous avez par exemple Ishaq ibn Ali Ruhawi qui a écrit Adab al-Tabib. D'accord ? Ça veut dire l'éthique du docteur, du médecin. Ça veut dire quelle est l'éthique, quelles sont les choses que le médecin doit respecter. D'accord ? Tout ce qui est éthique du médecin.
Excusez-moi.
Oui.
C'est mon que je
D'accord. Alors, Cheikh Sadou, qui a écrit Mala Yahduru al-Faki, d'accord ? Qui veut dire chacun est son propre juriste, d'accord ? Il a écrit aussi, il a mis en parallèle ce livre avec Mala Yahduru al-Tabib, c'est-à-dire chacun est son propre médecin. Et vous connaissez tous tout ce qui est médecine naturelle, tout ce qui est remède de grand-mère, etc. Quand on a une grippe, on peut être notre propre médecin. Et souvent, d'ailleurs, pour des petites grippes, des petites choses comme ça, on se soigne soi-même. D'accord ? Donc, tous ces ouvrages qui sont très importants ont vu le jour à l'époque de notre 9e imam. Et justement, nos imams, ils encourageaient les gens à justement avancer dans les différents domaines. Vous savez par exemple que notre sixième imam dont nous célébrons le Shahadat aujourd'hui, il avait une très grande université. Il a formé 4000 érudits qui ont ensuite formé beaucoup d'autres. Et les grands des autres sectes islamiques, justement, ont étudié avec notre sixième imam. D'accord ? Par exemple, les Malikites, leur chef Malik, il a étudié avec notre sixième imam. Pareil, les Hanafites, Abu Hanifa, il a étudié, il était un étudiant de notre sixième imam. Et dans son université, notre sixième imam, il enseignait pas seulement le akhlaq, le fiqh, le tariq, tout ce qui concerne l'islam. Il enseignait également les nouvelles sciences, les mathématiques, l'astronomie, etc. D'accord ? Donc, très important de s'ouvrir sur les différents domaines. Et durant l'occultation de notre 12e imam, la question de l'ijtihad est apparue. C'est-à-dire que les érudits, les ayatollahs, les mujtahids, ils devaient répondre à certaines questions contemporaines, des questions qui n'ont jamais été traitées, par exemple, par notre saint prophète. À l'époque, l'avortement n'existait pas. Ce sont des questions qui ne se posaient absolument pas. Alors que, durant l'occultation de notre deuxième imam, certaines questions qui n'avaient jamais été traitées ont commencé à voir le jour. Et à ce moment-là, on se demande comment est-ce qu'on traite de sujets contemporains qui n'ont jamais été traités par les autres, par nos imams, par nos maçons. Eh bien, tout simplement, nous devons trouver quelque chose qui correspondrait déjà dans le Saint-Coran. D'accord ? Par exemple, quand nous parlons de l'avortement. Lorsque nous parlons de l'avortement, je m'excuse pour ces dessins chocs, mais je voulais que ce soit des dessins un peu chocs et choquants pour que vous vous rendiez. Parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte que finalement, ils mettent fin à la vie d'une personne, qu'un fœtus, c'est déjà une personne. Hein? Et c'est comme un crime. L'avortement est vraiment un crime. Et c'est important. Parfois, on se dit, mais en plus, c'est devenu tellement simple et simplifié que s'il y a quelque chose, tout de suite, votre médecin va dire, bon, il suffit d'enlever. Comme si c'était quelque chose comme un fil qu'on enlève, quelque chose de simple qu'on enlève. Voilà. Vous voyez, c'est devenu tellement banal et banalisé qu'on ne se rend pas compte. Et je m'excuse pour ces images choc. Donc, par exemple, l'avortement, nous pouvons nous référer à un verset du Saint-Coran qui dit que ne mettez pas fin à la vie, d'accord, parce que vous craignez la pauvreté, d'accord. Nous venons maintenant à notre deuxième partie, qui est la définition de l'euthanasie. Alors, l'euthanasie, ça vient, c'est un mot grec, d'accord, et le donc, préfixe « e », ça veut dire « bien », d'accord. Et thanatos, ça veut dire mort. Donc, en gros, ça veut dire bonne mort. Une mort qui est bien, d'accord ? Même si ça paraît étrange, même si c'est contradictoire, mais euthanasie, ça veut dire une bonne mort. Alors, il y a deux sortes d'euthanasie. Soit, je suis tout à fait conscient. J'éprouve exactement, je vois les membres de ma famille qui viennent me voir, je suis consciente de tout, je ne suis pas dans le coma. Mais je suis dans un état tel que je nécessite beaucoup d'opérations, beaucoup de traitements très lourds, et j'en ai marre de souffrir comme ça. Soit je suis clouée au lit, soit je suis handicapée, etc. Et j'en ai marre de cette situation. Du coup, je me dis qu'il vaut mieux qu'un soignant m'injecte une dose, me donne cette injection qui va mettre un terme à ma vie. Donc ça, c'est l'euthanasie qui est volontaire. D'accord ? Je décide que j'en ai marre de ces souffrances et du coup, je voudrais qu'on mette un terme à ma vie. D'accord ? Le deuxième type d'euthanasie, c'est une euthanasie involontaire. C'est par exemple quelqu'un qui est dans le coma et qui est comme un légume, qui n'a plus aucune émotion, qui ne ressent plus rien, finalement, il est tel un légume, hein, il est dans un état tel, il est dans un état végétatif, et du coup, les médecins et parfois les membres de la famille conseillent à ce qu'on mette un terme à sa vie, parce que finalement, il n'est pas en vie, enfin, il est en vie sans être vraiment en vie, d'accord ? Et vous vous souvenez notamment du désastre de Hillsborough en 1989, où il y avait une personne qui est restée dans le coma pendant des années, et cette question de l'euthanasie est venue vraiment dans l'actualité. On parlait de plus en plus de l'euthanasie et du fait que est-ce que c'est légal ou pas, parce que la famille en avait marre de la situation, et puis tout le monde se disait, mais finalement, ça fait des années qu'il est comme ça, il ne va jamais revenir à la vie, et donc il vaut mieux en arrêter là. Donc, deux types d'euthanasie. Voyons maintenant quels sont les arguments pour l'euthanasie, en faveur de l'euthanasie. Donc, ceux qui prônent l'euthanasie, tout d'abord, un des arguments qu'ils donnent, c'est que nous sommes dans une démocratie libérale et que nous sommes tout à fait libres de décider du moment où nous voulons mettre un terme à notre vie. Donc, tout cela, c'est la liberté, d'accord ? La liberté de choisir, etc. Le deuxième argument, parfois donné par les médecins, l'équipe soignante, etc., parfois par les personnes de la sécurité sociale et tout ça, vous savez très bien qu'en France, nous avons ce gros problème de trou de la sécu, où justement la sécu n'a pas de fonds, et les personnes qui consomment sont plus importants que ceux qui cotisent, donc on est dans un cercle vicieux. Et du coup, ils disent que les personnes qui sont dans le coma, ils s'occupent des lits dans les hôpitaux qui n'ont plus assez de lits pour accueillir les malades. Et finalement, ils empêchent en gros les autres qui pourraient être guéris, qui pourraient recevoir des soins, ben, de pouvoir bénéficier de ces soins-là. Donc, ils occupent pratiquement inutilement les hôpitaux. C'est un des arguments qui est donné pour dire que l'euthanasie, ce serait bien qu'on le légalise et c'est quelque chose de bien. Et enfin, troisième argument, c'est qu'ils disent que finalement, pour la famille, c'est un poids. Et si certains d'entre vous ont eu un parent qui a été hospitalisé pendant longtemps, ou bien qui a eu ces problèmes-là, vous savez très bien que quand on a quelqu'un de très proche qui est à l'hôpital, ça nous fait énormément, qui est malade ou qui est dans un état comme ça, il nous faut énormément d'énergie, énormément de courage, de patience, de persévérance, énormément de temps. Nous avons tous des vies très occupées, nous travaillons toute la journée, puis il faut trouver encore le temps pour aller, et vous savez, les trajets, etc. C'est très très lourd. Et du coup, ces gens-là disent, mais finalement, cette personne qui est dans le coma, elle ne comprend rien, elle ne ressent rien, elle ne parle même pas, elle ne vit pratiquement pas. Alors finalement, c'est un poids pour nous, parce que nous, on est obligés d'aller lui rendre visite, etc. D'accord ? Donc, c'est le troisième argument qui est donné pour défendre l'euthanasie. Voyons maintenant quels sont les arguments contre l'euthanasie. Alors, l'islam, bien sûr, n'est pas du tout d'accord sur les trois arguments en faveur de l'euthanasie. Et c'est aussi le cas de toutes les religions à travers le monde. Toutes les religions sont contre l'euthanasie. Commençons par l'hindouisme. L'hindouisme est l'une des premières religions à s'affirmer, d'accord ? Contre l'euthanasie, d'accord ? La première religion qui a attaqué l'euthanasie. Parce que les hindous, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que l'euthanasie, c'est une séparation non naturelle du corps et de l'âme. Et ils disent que normalement, le corps et l'âme, ils fonctionnent en tandem. Et que si on provoque une mort finalement non naturelle, donc l'euthanasie, à ce moment-là, la séparation qui a lieu est une séparation qui n'est pas naturelle. Et du coup, cela propage une mauvaise énergie dans la société. Ça, c'est le point de vue des hindous. Voyons les sikhs. Alors, les sikhs, ils disent en même temps que c'est seulement Dieu qui nous a donné la vie, qui a le droit de la reprendre. Eux aussi, ils sont contre l'euthanasie. Voyons le judaïsme, et j'aime beaucoup ce que le judaïsme dit à propos de l'euthanasie, parce que le judaïsme dit que la supplication, le noua, l'invocation au Créateur est quelque chose, est un moment privilégié pour l'être humain. C'est quelque chose de très important. Et Inch'Allah, nous allons consacrer au moins un madhialisme au noua et expliquer quelles sont les conditions du noua, etc. Parce que le noua, c'est quelque chose de très important. Et ils disent, de quand on a un proche qui est dans un état végétatif, qui est dans un état où il est entre la vie et la mort. C'est l'occasion en or qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour invoquer Allah, pour demander à Allah. Et si on utilise l'euthanasie, on coupe ce lien-là, on coupe ce lien entre le Créateur et sa créature. D'accord ? Et justement, nos imams al-Islam aussi insistent beaucoup sur le doigt, sur l'invocation. Ils disent que le doigt est l'arme du croyant. D'accord ? C'est la lumière des cieux et de la terre. C'est le pilier de la religion. Imaginons que j'ai une arme chez moi, mais que je ne l'utilise pas. Finalement, ça ne sert à rien d'avoir une arme comme ça que je ne peux pas utiliser. Donc, l'invocation, pour nous, c'est une arme, d'accord ? Et il est important d'utiliser cette occasion en nous. D'ailleurs, lorsque quelqu'un a demandé à Imam Hassan alayhi salam, notre second imam, quelle est la distance entre les cieux et la terre, à ce moment-là, l'imam a répondu, c'est l'invocation, c'est le doigt d'une personne qui est opprimée, qui demande à son créateur, qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala. La seconde raison que le judaïsme donne concernant le fait que les juifs qui sont contre l'euthanasie, ils disent que la vie est une série de luttes, d'épreuves, de djihad. D'ailleurs, quand le bébé naît, quand nous naissons, nous sommes tous dans l'épreuve. Vous êtes d'accord avec moi? Tout d'un coup, alors que nous étions dans cet endroit très chaud, dans cet endroit très confortable, dans cet endroit où nous n'avions pas besoin de chercher à manger, à boire, où nous avions tout sous la main, nous avions tout était prévu pour nous, tout d'un coup, nous sortons dans ce monde vaste qui est froid, qui est pas accueillant, et puis en plus, nous sommes obligés de faire des efforts. Il faut maintenant respirer, etc. Et qu'est-ce que le bébé fait? Il est en souffrance et tout de suite, il se met à hurler, à pleurer. Maintenant, il devra faire des efforts pour avoir du lait. Tant qu'il ne crie pas, qu'il est tranquille, personne ne va s'occuper de lui, etc. Donc, le bébé, finalement, quand il naît, déjà, il naît dans l'effort, dans la souffrance. Et puis, quand nous regardons toute notre vie jusqu'à notre mort, la personne qui est en train de mourir, elle aussi est en train de faire des efforts pour le dernier souffle. D'accord? Donc, lorsque nous regardons notre vie, eh bien, c'est une vie remplie d'efforts, remplie de djihad, remplie d'épreuves et de luttes. Et donc, c'est important de ne pas donner quelque chose, une facilité, en utilisant l'euthanasie, puisque l'euthanasie, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette mort qui est une mort en luttant. D'accord? C'est donc la lutte, c'est l'essence même de la vie. D'accord? C'est ce qu'ils disent. Et en plus, plus nous luttons et plus nous nous approchons de notre Créateur. Voyons ce que dit le christianisme à propos de l'euthanasie. Alors justement, le christianisme est aussi contre l'euthanasie. Car selon cette religion, les derniers moments de la vie d'un être humain sont parfois les plus spirituels. Souvent, la dernière période de vie est une période privilégiée entre le Créateur et sa créature. Et du coup, lorsque nous mettons fin à cette dernière période de vie, nous, justement, nous coupons ce lien que, que la créature, elle veut créer avec son Créateur. Voyons maintenant l'islam. Alors l'islam, elle reconnaît également ce point, elle dit que parfois, les derniers jours de vie d'un homme sont exceptionnels. Vous connaissez tous sûrement l'histoire, l'anecdote de quelqu'un qui était complètement irreligieux pendant une grosse partie de sa vie, et puis qui s'est tourné vers la religion pendant les derniers moments de sa vie. Par exemple, dans l'histoire islamique, nous avons l'exemple de Hud. Par exemple, Hud qui était quelqu'un qui avait même empêché Imam Hussein d'arriver jusqu'à justement d'aller à Koufa, il a dévié vers Karbala, l'a empêché l'accès à l'eau. Vous voyez ces derniers moments de sa vie, comment est-ce qu'il a changé? Et puis vous avez aussi déjà vu le contraire, des personnes qui étaient religieuses et qui à la dernière minute sont devenues, ont lâché, ont laissé tomber la religion. Donc, les derniers moments de la vie sont des moments très importants. D'accord? Et d'ailleurs, lorsque nous portons le corps d'un défunt, nous n'arrêtons pas de répéter de temps en temps « La ilaha illallah ». Pourquoi? Parce que justement, pendant ces derniers moments de la vie, même une personne qui, durant toute sa vie, a prononcé « La ilaha illallah », il n'y a pas de Dieu sauf Allah. Parfois, pendant ces derniers moments, il a du mal à rester ferme dans la religion. Il a parfois du mal à rester sur la ilaha illallah. C'est pour cela que nous lui rappelons et nous l'aidons dans ces derniers moments. Alors voilà, maintenant, nous allons aller plus en profondeur sur la religion islamique et ce que l'islam dit sur l'euthanasie. Alors l'islam n'accepte pas l'euthanasie pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la vie de l'être humain, elle a beaucoup de valeur. D'ailleurs, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé le premier homme, le prophète Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a ordonné à tous les anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. Ce qu'il voulait montrer, il voulait montrer que l'homme a une très grande importance. Jusqu'à présent, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé la montagne, il n'a pas dit à tout le monde, allez, tout le monde se prosterne devant la montagne. Quand il a créé les animaux, il n'a pas dit, allez, tout le monde doit se prosterner devant les animaux, etc. Quand il a demandé aux anges de se prosterner devant Nabi Adam a.s., il voulait montrer que l'homme est quelque chose de très élevé. D'accord, hein? Nous disons que parmi toutes les créatures que Allah subhanahu wa ta'ala a créées, c'est la meilleure des créatures. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à la montagne, a demandé aux cieux, à la terre, de prendre une responsabilité. Mais tous ont refusé. Il n'y a que l'homme qui a accepté cette responsabilité-là. Comme vous le savez, l'homme, il peut s'élever au-dessus des anges. Parce que les anges, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de désir. Si je dis je suis un ange et je ne commets pas de péché, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. D'accord ? C'est comme certaines personnes qui disent « Ah, moi je ne suis jamais allée en boîte de nuit. » Oui, c'est normal, parce que tu habites à Koum. Il n'y a pas de boîte de nuit là-bas, tu risques pas d'y aller. Mais si j'habite à La Réunion et je dis « Je ne suis jamais allée en boîte de nuit », là je peux dire que je suis quelqu'un d'exceptionnel. D'accord ? Si j'habite à Koum, je porte le grand haut-bas quand je sors de chez moi. Et je me vante « Ah, moi je ne sors jamais sans mon haut-bas. » Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Puisque d'ailleurs, si on ne porte pas le haut-bas, les gens vont nous regarder un peu bizarrement si je me promène dans les rues de Koum. Vous êtes d'accord avec moi ? Par contre, si je porte le hijab en restant à La Réunion, en vivant en Occident, là je peux dire que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. C'est la même chose pour les anges. Les anges, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de désir. C'est normal qu'ils ne commettent pas de péché. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu arrives à lutter contre ton os, si tu arrives à résister au péché, alors là tu peux tellement t'élever que tu seras supérieur aux anges. D'ailleurs, vous vous souvenez que les anges, ils ont un petit peu rouspété quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, je vais créer l'homme. Les anges ont dit, mais Allah, nous, certains d'entre nous sommes toujours en rukou, certains sont toujours en sujoud, certains sont toujours en kunut, certains sont en train de faire, nous sommes tous tout le temps en train de prier, nous sommes toujours en train de faire des ibadet. Tu vas envoyer cet homme qui va faire le fitna, le fassad, qui va créer le mal, qui va apporter toutes ces mauvaises choses-là. Vraiment, il se croyait supérieur. Mais Allah, il savait quelle était son intention. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que nous pourrions même dépasser les anges. D'accord ? Le deuxième argument que nous donnons contre l'euthanasie, c'est justement qu'il nous est interdit de mettre fin à la vie. D'accord ? Comme vous voyez dans ces versets du Saint-Coran, hein, surat Bani Israël, donc en fait la surat numéro 17, elle a deux noms, la surat Bani Israël, parce que ça parle des enfants d'Israël, d'accord ? Et puis la surat Isra, qui veut dire l'ascension, le Mi'raj, parce qu'elle parle de l'ascension du prophète. Verset 31, « Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. » Parce que justement, certains qui n'arrivaient pas à subvenir aux besoins de leur famille, eh bien, ils tuaient leurs enfants. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. D'accord ? Toujours la même sourate, verset 33. Et sauf en droit, ne tuez point la vie que Allah a rendue sacrée. D'accord ? Donc la vie de l'être humain est quelque chose de très sacré. D'ailleurs, vous vous souvenez de l'histoire de Habil et Kabil, Abel et Karin. Qu'est-ce qui s'est passé quand Kabil a tué Habil, Allah subhanahu wa ta'ala a tout de suite révélé le verset en disant « Celui qui tue une seule personne, c'est comme si elle a mis un terme à la vie de toute l'humanité. Mais la personne qui sauve une seule personne, c'est comme si elle avait sauvé toute l'humanité. » D'accord ? Ce qui nous montre justement que cette vie, la vie de l'être humain, est très précieuse. D'accord ? Bien sûr, le prochain argument qu'on donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette vie et c'est seulement lui qui doit décider, qui peut décider, qui a le droit de décider du moment où cette vie doit prendre fin. Et bien sûr, l'islam n'accepte aucun type de suicide, hein, et contre le suicide, qu'il soit assisté ou qu'il ne soit pas assisté. D'accord ? D'ailleurs, nous voyons dans la sourate numéro 4, sourate Nissa, verset 29, et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. Et donc, ce verset indique que le suicide est haram en islam. Pourquoi ? Parce que le suicide illustre le fait que la personne est arrivée au désespoir dans sa vie. Ça veut dire qu'elle imagine le Créateur de la même façon que ses créatures. Elle se dit, personne ne peut m'aider. Je suis allée voir telle personne, elle ne peut pas m'aider. Je suis allée voir telle personne, elle ne peut pas m'aider. Et toi non plus, tu ne peux pas m'aider. C'est comme si je mettais Allah subhanahu wa ta'ala dans le même rang, dans le même panier que les créatures d'Allah. Et d'accord ? Et du coup, ça, c'est le deuxième péché capital, le désespoir, c'est le deuxième guna et kabira après le shirk, après le polythéisme. D'accord ? Si je perds confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de très grave. D'accord ? Le désespoir est le deuxième grand péché. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable à tout. Tout ce monde qui marche de cause à effet, toutes ces lois de cause à effet peuvent être complètement bousculées, complètement changées en un instant, en une fraction de seconde par Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez déjà vu une vierge qui a un enfant? Pourtant, quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui donner un enfant, il a eu cet enfant. Elle a eu cet enfant. D'accord? Nabi Issa, jusqu'à présent, nous n'avions eu personne qui était né sans père. Pourtant, Nabi Issa, il est né sans père. Est-ce que vous avez déjà vu un père en train d'égorger ou une personne en train d'égorger quelqu'un et puis la personne, elle n'est finalement n'est pas tuée, n'est pas morte? Ça n'existe pas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala a pu le faire en envoyant un mouton et malgré le fait que Nabi Ibrahim a passé le couteau sur le cou de Nabi Ismaïl, Nabi Ismaïl n'a pas eu une égratignure sur son cou. Autre exemple, quand notre saint prophète est allé en haut au Mi'raj, quand il est allé dans les cieux, vous savez que le temps ne s'est pas écoulé. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui voyage pendant tout ce temps et entre-temps, nous sommes toujours en train de courir derrière la montre. Si on pouvait mettre des cordes pour retenir les aiguilles d'une montre, je crois qu'on serait les premiers acheteuses de cette montre qui n'avance pas, qui reste sur place. Je crois que nous, s'il y avait un magasin qui vendait ce genre d'objet, je crois que nous serions les premières à aller dans ce magasin pour acheter ce genre de choses. Mais ça n'existe pas. Et pourtant, quand la Subhanahu wa ta'ala a voulu le faire, et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, pourquoi est-ce que nous n'avons pas confiance en la Subhanahu wa ta'ala? Il peut vraiment faire des miracles, il peut changer le cours des événements. Vous savez que le shirk, ça consiste à associer des partenaires à Dieu, d'accord? Le polythéisme. Et le désespoir, justement, c'est à peu près du même ordre. Ça veut dire que je manque de confiance en la puissance, en la volonté, au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le désespoir est quelque chose de très, très, très mauvais, très, très mal vu. Durant l'époque de notre saint prophète, il y avait un homme dans les temps anciens qui avait une blessure, d'accord ? Et il n'avait pas de patience. Tellement sa blessure l'irritait, le gênait, et du coup, il a encore plus travaillé sur sa blessure, je ne sais pas comment dire ça. Il a fait en sorte que finalement, il est décédé, il a causé sa propre mort. Là, notre saint prophète était très mécontent en apprenant cette histoire et il a dit que cette personne ne sentira même pas l'odeur du paradis. Et dans une autre tradition, dans une autre narration, dans un autre hadith, Rasulallah explique que celui qui utilise un instrument métallique pour se tuer, cet instrument le mènera en enfer. Celui qui boit du poison pour mettre un terme à sa vie, eh bien, il boira du poison de l'enfer. Celui qui saute d'une falaise pour se tuer, sautera des falaises de l'enfer. Tout cela pour nous montrer que tout type de suicide, donc y compris l'euthanasie dans l'état actuel des choses, eh bien, c'est quelque chose de très mauvais et c'est quelque chose qui nous amènera directement en enfer. Vous savez même que nous disons en islam que la personne qui s'est suicidée, il est interdit de l'enterrer dans le cimetière. D'accord ? Dans le cimetière des musulmans, parce que on considère que cette personne n'est même pas musulmane et kafir et mécréante parce qu'elle n'a pas cette confiance en elle. D'accord ? C'est un très très grand péché de se suicider. Et justement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut décider du moment où la vie doit prendre fin, parce que c'est lui qui connaît mieux ses créatures, c'est lui qui détient la sagesse. Pourquoi ? La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas annoncé le moment de notre mort dès le départ ? Ça aurait été trop bien. Si je savais que je vais mourir à 60 ans, qu'est-ce que se serait passé ? Pendant 59 ans, j'aurais commis beaucoup de péchés. J'aurais fait la fête, j'aurais fait tout ce qui me faisait plaisir. Et puis ensuite, la dernière année, là, j'aurais commencé à devenir religieuse. C'est là que j'aurais commencé à faire mes namaz, j'aurais commencé à faire mes jeûnes, j'aurais commencé à donner aux autres, à penser aux pauvres, aux nécessités, etc. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est complètement illogique. Et si on réfléchit vraiment, finalement, c'est à l'encontre de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne comme ça, qui pendant tout ce temps a profité de la vie et après qui s'est tournée vers Allah seulement durant sa dernière année, elle ne mérite pas toutes les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas mérité, d'accord? Et donc, c'est pour cela que nous ne savons pas le moment de notre mort dès le départ. Pourquoi est-ce que certaines personnes, c'est notre dernière partie, doivent endurer des moments difficiles à la fin de leur vie? Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime ses créatures, il veut les tester, il les plonge dans les eaux de la souffrance, d'accord? Il veut tester leur patience, il veut tester leur foi. Et c'est pour cela que Imam Ali alayhi salam a dit, la patience est pour la foi ce que la tête est pour le corps. Est-ce que vous avez déjà vu un corps sans tête? Non. Eh bien, c'est la même chose. Si vous dites que vous avez la foi, si vous dites que vous êtes musulmane, si vous dites que vous croyez en Allah, alors, en même temps, vous devez absolument être patient. C'est une condition, d'accord? De la foi. Et d'ailleurs, certains d'entre nous ont commis des péchés et elles aimeraient bien pouvoir se libérer de ses péchés, être puni de ses péchés dans ce monde même, au lieu d'avoir à subir le châtiment dans l'au-delà. Et vous savez que parfois, quand nous avons des épreuves, quand nous tombons malades, etc., qu'est-ce que nous devons faire quand nous tombons malades? Nous devons beaucoup faire istighfar, nous devons beaucoup réciter Astaghfirullah Rabbi wa Atubu'ili, nous devons demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous devons nous rappeler que si nous avons une fièvre cette nuit, c'est peut-être que nous avons commis un péché et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une seconde chance, nous donne une possibilité de tout de suite effacer ce péché-là. Donc pensons au péché que nous avons commis quand nous avons une épreuve qui nous attend. D'ailleurs, dans l'histoire islamique, vous avez beaucoup d'exemples de personnes qui ont eu, durant les derniers moments de leur vie, qui ont eu à subir certaines épreuves. Vous avez par exemple l'histoire du prophète Ayoub alayhi salam. Le prophète Ayoub alayhi salam, vous vous souvenez, c'est quelqu'un qui avait énormément de terres, qui était très riche, qui avait énormément beaucoup d'enfants, etc. Il avait une vie, il vivait heureux, il vivait paisiblement. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'éprouver, a voulu le tester. Et d'ailleurs, c'est Shaitan qui a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est normal que ton prophète, lui, il te remercie tout le temps, il est toujours pieux, il est toujours religieux, parce qu'il a tout ce qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas religieux? Éprouve-le et tu verras s'il continue à dire shukra lillah, s'il continue à te remercier. Et justement, le prophète Ayoub alayhi salam a subi tellement d'épreuves que tous ses fils ont été tués, qu'il a attrapé une maladie tellement grave que personne n'osait ne l'approcher, etc. Il était complètement solitaire, mais jusqu'au dernier moment, épreuve après épreuve, et Shaitan était très 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 énervé en voyant cette situation-là, épreuve après épreuve, le prophète Ayoub alayhi salam, il remerciait toujours Allah. Il remerciait toujours Allah à un tel point que Shaitan est allé insuffler des mauvaises idées à la femme du prophète Ayoub alayhi salam, en lui disant, tu vois, comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne vous aime pas pour vous donner autant de mal? Et quand elle a dit ça à son mari lui a dit tout de suite, quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, durant toutes ces années, nous a donné tellement de bénédictions, que même si maintenant il retire toutes ces bénédictions, c'est lui qui nous a accordé tout cela. Ces enfants que nous avions, cette richesse, c'est Allah qui nous a donné, il peut la récupérer. Ce n'était pas un bien qui nous appartenait, il peut récupérer tout cela. Et pendant toutes ces années, nous avons été dans le bien, dans le bonheur. Eh bien, on pourrait avoir le double d'années dans le malheur, justement, en compensation de ce que nous avons eu comme bien. Mais jusqu'au dernier moment, il est resté ferme dans la foi. Vous avez par exemple l'exemple de Imam Hassan alayhi salam, notre second imam. Vous vous souvenez combien le poison qu'il avait eu l'avait affecté à tel point que quand nous, durant son charadette, quand nous parlons de ce qui lui est arrivé, nous disons que quand il a vomi, tous les morceaux de son foie étaient dans cette bassine de vomi qu'il a sorti. Tellement il a souffert après avoir ingurgité le poison, mais pourtant il se prosternait et il disait Shukrallah, Shukrallah, parce qu'il savait que si Allah subhanahu wa ta'ala est en train de m'éprouver, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'aime, c'est parce que Allah a une affection, a un amour envers moi, c'est pour cela qu'il me fait souffrir. Et vous avez l'exemple de Abba Abdillah Hussein, vous avez l'exemple de notre troisième imam qui disait, même durant ces derniers moments, il disait, oh Allah, même si les ennemis me coupaient en mille morceaux, chaque partie de mon corps va continuer à chanter ta gloire, va continuer à chanter ton amour, va continuer à dire, à témoigner, la ilaha illallah, et peu importe, si j'avais plusieurs vies, je serais prêt à sacrifier si c'est pour ta cause, si c'est pour toi. Et il disait, notamment cette chose qui est très 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 belle, ces très belles paroles, oh Allah, qu'ai-je trouvé lorsque je t'ai perdu? Si je t'ai perdu, même les trésors ne me servent à rien. Qu'est-ce que je vais trouver si je te perds? Et qu'est-ce que j'ai perdu si je t'ai trouvé? Si je t'ai trouvé, peu importe si je dois sacrifier toute ma famille, peu importe si je dois tout laisser, même si je me retrouve sans rien, ça, ce n'est pas important. Le plus important, c'est que moi, je t'ai. Hein, je t'ai la semaine mentale. Et nous voyons que certains de nos érudits se sont prononcés sur l'euthanasie. D'accord? Nous avons Sayyed Sistani que nous suivons dans cette communauté qui est plus figé sur son opinion concernant la mort cérébrale. Mais nous avons Sayyed Mohamed Hussein Fadlallah qui justement donne plus de précision et nous explique comment est-ce que nous devons réagir. Il dit que s'il y a une probabilité de moins de 1% que le cerveau de la personne fonctionnera de nouveau, alors le médecin a le droit de débrancher l'appareil après en avoir demandé la permission au tuteur, d'accord, de la personne. Il explique que l'homme a l'obligation de protéger la vie, d'accord, mais pas les cellules, d'accord. Et il dit donc qu'on peut mettre un terme à la vie d'une personne, mais on peut débrancher la, on ne peut pas mettre, pardon, un terme à la vie de la personne, mais on peut débrancher l'appareil qui prolonge la vie s'il y a moins de 1% de chance que le cerveau fonctionnera de nouveau, d'accord. Donc voilà un petit peu ce que nous pouvons dire sur l'euthanasie. Et tout à l'heure, à la fin, vous pourrez poser vos questions si vous en avez.